Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 186 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Janati vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset porte sur l'appel de Dieu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العلي العظيم.
Et quand mes esclaves t'interrogeront sur moi, alors que je suis tout proche, je réponds à l'appel de qui fait appel quand il m'appelle. Qu'il cherche donc à répondre à mon appel et qu'il croie en moi, peut-être serait-il bien dirigé.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Mesdames, Messieurs, chers amis auditeurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver encore une fois sur ces ondes de l'amitié et de la fraternité en ce lundi 25 mars 2024. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information, suivi d'un commentaire politique. Vous aurez ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. Crime de guerre commis par Israël à l'hôpital Al-Shifa de Gaza. L'Iran appelle à une enquête internationale. Les combattants du Hezbollah libanais ont mené 8 opérations contre les forces de l'armée israélienne. Et manifestations en condamnation du génocide à Gaza dans les capitales jordaniennes et tunisiennes. C'était les principaux titres. En voici le journal. L'Iran a appelé à une enquête internationale sur les crimes de guerre commis par le régime sioniste lors de son siège et du raid ultérieur contre l'hôpital Al-Shifa dans le nord de la bande de Gaza. Malheureusement, au cours des derniers jours, 180 patients, membres du personnel médical et déplacés palestiniens assiégés à l'hôpital Al-Shifa ont perdu la vie à cause des attaques aveugles des forces israéliennes et de l'empêchement de l'entrée de produits alimentaires et de médicaments de base dans le complexe, tandis que les survivants sont soumis à une mort progressive, a dénoncé ce dimanche 24 mars, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Le porte-parole de la diplomatie iranienne, Nasser Kanani, a ajouté qu'il existe des rapports horribles indiquant que les forces israéliennes se sont lancées dans des actes de torture, de viol et de massacre de femmes palestiniennes piégées dans l'hôpital. Cela nécessite une mesure immédiate et catégorique de la communauté internationale, y compris la formation d'un groupe d'enquête internationale pour révéler l'étendue des crimes de guerre commis par les sionistes à l'hôpital Al-Shifa. La République islamique d'Iran condamne fermement la violation flagrante des lois et réglementations internationales, y compris les droits de l'homme et le droit international humanitaire par le régime sioniste, tout en soulignant la responsabilité de la communauté internationale et des gouvernements musulmans dans leur soutien à la nation opprimée de la Palestine, a-t-il rappelé. Le porte-parole de la diplomatie iranienne a souligné que des mesures globales doivent être prises par les gouvernements et les organismes internationaux pour traduire en justice les auteurs de tels crimes et leurs protecteurs. Al-Shifa était le plus grand hôpital de la bande de Gaza avant le début du conflit actuel. C'est aujourd'hui l'un des rares établissements de santé partiellement opérationnels dans le nord de l'enclave assiégée. Pour la première fois, Israël a attaqué cet hôpital en novembre dernier, alléguant que les membres du Hamas l'utilisaient comme centre de commandement. Une allégation que les responsables du Hamas ont rejetée à plusieurs reprises. Le 18 mars, les forces d'occupation israéliennes ont lancé une nouvelle vague d'attaques contre le complexe médical et l'ont assiégé. L'Iran et Oman soulignent la nécessité de l'intervention ferme et immédiate de la communauté internationale pour prévenir les crimes commis par le régime israélien dans la bande de Gaza. Lors d'un entretien téléphonique dimanche, Hossein Amir Abdollahian, ministre iranien des Affaires étrangères, et son homologue omanais, Saïd Badr ibn Hamad al-Moussaidi, ont discuté des relations bilatérales et des récents développements dans la bande de Gaza. Évoquant les relations croissantes entre l'Iran et le sultanat d'Oman, les deux hommes ont souligné la volonté des deux pays de poursuivre et de consolider les relations bilatérales et la coopération régionale et internationale. Ils ont fermement condamné la poursuite des crimes du régime sioniste dans la bande de Gaza, en particulier ses actions brutales et inhumaines lors du siège de l'hôpital Al-Shifa, à savoir le meurtre de patients et de personnel médical. Compte tenu de l'ampleur des tragédies survenues dans cet hôpital, les parties ont souligné la nécessité d'une intervention rapide et sérieuse de la communauté internationale afin de prévenir de nouveaux crimes du régime sioniste contre le peuple opprimé palestinien. La résistance islamique au Liban continue de bombarder les sites militaires israéliens le long de la frontière sud-libanaise en soutien à Gaza et en représailles aux attaques sur le sol libanais. La résistance libanaise a annoncé le dimanche 24 mars dans la soirée que ces combattants avaient pris pour cible un immeuble abritant des soldats israéliens dans la colonie de Metula, en face de la ville d'Al-Khayyam, au sud du Liban. Le Hezbollah libanais a déclaré dans un communiqué qu'il avait visé un point de rassemblement du régime sioniste à proximité de la caserne Branit à l'aide de grenades propulsées par roquettes. Il a également visé par roquette le site de Reisat al-Alam dans les collines libanaises occupées de Kfar Chouba. De même, en réponse aux attaques de l'occupation contre les villages du sud et les habitations civiles, les combattants du Hezbollah ont ciblé un bâtiment abritant des soldats de l'occupation sioniste dans la colonie d'Al-Manara, en face de la ville de Mais al-Jabal, dans le sud du Liban. Ils ont aussi attaqué une unité militaire israélienne à l'intérieur du site de Marj, en face de la ville de Markaba, au sud du Liban, tuant et blessant plusieurs des effectifs de l'ennemi. Les combattants libanais ont détruit également du matériel d'espionnage israélien sur le site d'Al-Rahib, dans le nord de la Palestine occupée. La résistance libanaise a également bombardé le site d'occupation israélien de Jalal al-Alam à l'aide d'obus d'artillerie, infligeant des pertes importantes aux forces d'occupation israéliennes. Selon un correspondant d'Al-Mayadin dans le sud libanais, l'occupation israélienne a lancé des frappes d'artillerie à la périphérie des villes de Tayr Harfa, d'Al-Taïba et d'Al-Naroura. Des manifestants pro-palestiniens ont organisé un grand rassemblement près de l'ambassade israélienne à Amman, la capitale jordanienne, condamnant les crimes du régime sioniste dans la bande de Gaza et appelant à la fermeture de son ambassade. Lors de la manifestation anti-israélienne du dimanche 24 mars, la police anti-émeute jordanienne a tiré des gaz lacrymogènes pour disperser des centaines de manifestants qui marchaient vers l'ambassade du régime pour protester contre les crimes de guerre commis par les forces israéliennes à Gaza, notamment la prise d'assaut des hôpitaux du territoire, sans oublier l'augmentation des pertes civiles palestiniennes. Les manifestants ont scandé « Pas d'ambassade sioniste sur le territoire jordanien », exhortant le gouvernement à abandonner son traité de paix très impopulaire avec Israël. Ils ont également scandé des slogans en soutien au mouvement de résistance palestinien Hamas. « Vengeance, vengeance, au Hamas, bombarde Tel Aviv », ont-ils crié. La police anti-émeute jordanienne avait déjà été déployée pour disperser les manifestants rassemblés dans la mosquée Kolati et qui envisageaient de marcher vers l'ambassade israélienne située à proximité. Selon des témoins oculaires, plusieurs manifestants ont été battus et de nombreux autres arrêtés, alors qu'ils tentaient de briser un épais cordon de police autour de l'ambassade. Des manifestations semblables ont également eu lieu en Tunisie devant l'ambassade américaine à Tunis et en signe de soutien aux Palestiniens. Les manifestants, représentant plusieurs organisations soutenant la Palestine, ont souligné qu'il fallait exercer davantage de pression pour lever le siège contre le peuple palestinien, qui est privé de nourriture, d'aide et des nécessités les plus élémentaires de la vie. Le génocide du régime à Gaza jusqu'à présent tué 32 226 civils, pour la plupart des femmes et des enfants, faisant aussi 74 518 blessés, selon des sources médicales palestiniennes. Des milliers de victimes restent aussi sous les décombres et le long des routes, alors que les forces d'occupation empêchent les équipes de secours de les atteindre. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, en visite dimanche 25 mars au Caire, ont exprimé leur rejet total du déplacement des Palestiniens de leur territoire et d'une éventuelle opération militaire israélienne dans la ville de Gaza ville de Rafah, dans l'extrême sud de l'enclave. Lors de leur entretien au Caire, les deux dirigeants ont mis en garde contre toute opération israélienne à Rafah qui risquerait d'avoir des conséquences catastrophiques sur une situation déjà désastreuse dans la ville, a indiqué la présidence égyptienne dans un communiqué. Ils ont également discuté de l'intensification des efforts visant à parvenir à un cessez-le-feu immédiat à Gaza et à fournir une aide humanitaire suffisante aux habitants de l'enclave assiégée, a ajouté le communiqué. Le président égyptien et le secrétaire général de l'ONU ont appelé à créer des conditions propices à la mise en œuvre de la solution à deux États qu'ils ont décrite comme la seule voie pour parvenir à la justice, à la sécurité et à la stabilité dans la région. Israël a annoncé son intention de lancer une opération terrestre à grande échelle à Rafah, où résident environ 1,5 million de Palestiniens déplacés. Cette décision a été largement critiquée par la communauté internationale. 30 tentatives de migration irrégulière et de franchissement illicite des frontières maritimes tunisiennes ont été déjouées, a révélé dimanche 24 mars la direction générale de la Garde nationale tunisienne. D'après la même source, les unités de la garde côtière ont pu secourir 614 migrants, dont la majorité des subsahariens, en plus de 2 Tunisiens. Au cours de ces opérations de sauvetage, 2 corps de migrants clandestins ont été repêchés et soumis au service de la santé publique concernée. D'un autre côté, précise la garde nationale, des unités de la garde nationale de Sfax, sud-est, appuyées par la division d'intervention rapide, ont pu intercepter 20 individus, dont des passeurs, des organisateurs et des intermédiaires de tentatives de migration irrégulière. Voilà, ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute du commentaire politique. Expo du Qatar, le drone iranien Gaza devient grand public. Un modèle du nouveau produit phare de l'industrie de défense iranienne a été exposé ce mois-ci lors d'un salon international de l'armement à Doha, la première exposition du drone en dehors de l'Iran. L'industrie de défense iranienne se généralise lors d'un salon international de l'armement au Qatar avec le nouveau produit phare baptisé Drone Gaza, selon le journal américain du Wall Street Journal. Avec une portée de 1243 milles, une envergure de 78 pieds, une liaison satellite, le drone Gaza peut transporter 13 bombes à guidage de précision, indique le rapport, ajoutant que l'avion sans pilote représente une menace accrue pour les intérêts et les alliés des États-Unis. Il a également décrit le drone iranien comme un effort pour rattraper le MQ-9A Reaper de fabrication américaine. Mais à Doha, il ne faisait aucun doute que l'industrie de défense iranienne est en train de se généraliser, indique le rapport. Lors de l'exposition iranienne à Doha, des brochures sur papier glacé présentaient une douzaine de produits faits maison, notamment des missiles de défense aérienne et des lanceurs de fusées spatiales et des dépliants faisant la promotion de nouveaux missiles de croisière antinavire et de systèmes radar. Un tract décrit les fusils d'assaut iraniens comme les mieux adaptés à la guérilla dans toutes les conditions climatiques. Depuis l'expiration en octobre d'un embargo sur les armes de l'ONU de 13 ans, l'Iran vend de plus en plus ses produits de défense sur le marché international. Le vice-ministre iranien de la Défense, Mahdi Farahi, a déclaré en novembre que le pays avait rendu pour environ 1 milliard de dollars d'armes entre mars 2022 et mars 2023, soit 3 fois plus que l'année précédente. Le rapport du Wall Street Journal indique que Washington a contacté le Qatar, qui abrite la plus grande base militaire américaine dans la région, au sujet de la présence de l'Iran au salon. Les experts et ingénieurs militaires iraniens ont réalisé ces dernières années des percées remarquables dans la fabrication d'une large gamme d'équipements locaux, rendant ainsi les forces armées autosuffisantes. Les responsables iraniens ont souligné que le pays n'hésiterait pas à renforcer ses capacités militaires entièrement destinées à la défense et à la dissuasion et que les capacités de défense de l'Iran ne feraient jamais l'objet des négociations. Le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, a appelé à plusieurs reprises à des efforts visant à renforcer les capacités de défense de l'Iran.
Bonjour à tous et bienvenue parmi nous dans cette émission Le Débat. Je vous propose aujourd'hui le sujet donc de l'inaction de l'ONU face à la situation humanitaire et catastrophique de Gaza. L'inaction humanitaire, mais également juridique, l'inaction internationale concernant 75 ans d'histoire de la cause palestinienne. Tout d'abord, je vous propose, comme le veut le format de cette émission, donc un reportage qui résumera la situation. Et par la suite, nous allons inviter nos deux invités du jour pour en discuter. Tout de suite, donc, je vous propose notre reportage.
L'Iran dénonce l'inaction de l'ONU et du Conseil de sécurité face à la tragédie en cours dans la bande de Gaza, exhortant la communauté internationale à libérer cette organisation de l'emprise des États-Unis et d'Israël. Dans un message publié le 21 mars sur son compte X, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a déclaré que le monde était témoin de la poursuite de la barbarie et de la brutalité d'Israël dans la bande de Gaza. Après 167 jours consécutifs de guerre israélienne contre la bande de Gaza, les organisations internationales s'abstiennent toujours d'agir et se contentent d'annoncer leur position et leur point de vue, a-t-il noté, et d'ajouter que ceux qui regardent le silence et soutiennent les brutalités d'Israël devraient avoir honte d'eux-mêmes.
Donc voilà, le reportage étant fini, nous revoilà dans les studios. Alors tout de suite, je vais annoncer donc nos invités. Notre premier invité étant Monsieur Bernard Cornu, expert notamment en géopolitique, surtout pour la question du Moyen-Orient et de la question palestinienne, la cause palestinienne. Monsieur Bernard Cornu, ravi de vous avoir avec nous comme invité de notre débat.
Merci à vous, bonjour à vous et à toutes.
Notre deuxième invité étant Maître Elie Atem, donc juriste en droit international public. Maître Elie Atem, ravi de vous avoir avec nous également aujourd'hui de nouveau.
Bonjour et merci de votre invitation. Mes salutations également à tous les spectateurs et à mon ami Monsieur Cornu.
Alors Maître Atem, vous devez le deviner au vu du sujet, on va commencer par vous parce qu'il y a un point de droit international sur le titre de ce sujet concernant donc le veto américain, parce que c'est ça qui est décrié, puisque c'est ça qui bloque toute résolution définitive sur la question palestinienne. Alors Monsieur Atem, pour nos auditeurs, même si ça a été déjà dit, indiqué, mais on ne sait jamais, les gens pourraient ne pas être informés. Pourquoi le vote américain provoque un veto aussi important et aussi fort au sein du Conseil, sachant qu'il y a des centaines de pays représentés?
Parce que malheureusement, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu la création des Nations Unies qui a remplacé la Société des Nations. Et l'une des particularités de cette organisation mondiale, dont l'objectif c'est la préservation de la paix et de la sécurité internationale, c'est le droit de veto attribué aux cinq grandes puissances qui ont gagné lors de la Seconde Guerre mondiale, à savoir les États-Unis d'Amérique, la Russie aujourd'hui, autrement dit à l'époque c'était l'Union soviétique, la France, la Grande-Bretagne et la Chine. Et il suffit que l'une de ces puissances utilise un droit de veto pour empêcher un texte, une résolution, ce qu'on appelle, de la part du Conseil de sécurité, qui est exécutoire, de sortir. Et les États-Unis ont multiplié l'usage de ce droit, c'est-à-dire le droit de veto, pour empêcher de faire aboutir des résolutions. Les États-Unis, il faut le dire, est l'allié traditionnel de l'entité sioniste, et c'est la raison pour laquelle les États-Unis utilisent systématiquement ce droit de veto pour empêcher ces résolutions d'aboutir, en sachant que la politique étrangère américaine est surtout édictée par des lobbies sionistes pro-israéliens, essentiellement l'AIPAC. Alors, il faut dire aussi une chose, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, les États-Unis sont pris en otage de leur position qui est celle d'une position qui est totalement pro-israélienne, compte tenu et également de ces liens privilégiés que les États-Unis entretiennent également dans la région, en sachant que les États-Unis ont également des intérêts à préserver dans la région. C'est ce qui explique en fait cette sclérose et cette complicité, il faut le dire, américaine de ces crimes contre l'humanité, ce génocide, parce que c'est pas moi qui le prononce, c'est la Cour internationale de justice a dit qu'elle a quand même des suspicions très importantes relativement à ce génocide. Et enfin, je termine sur ce point, c'est qu'il y a plus de 65 résolutions qui ont été formulées contre Israël malgré ce droit de veto, et malgré tout, malheureusement, ces résolutions n'ont jamais été appliquées par l'entité sioniste pour la simple raison qu'ils se considèrent, que cette entité se considère au-dessus du droit international public, et ce qui montre aussi la fragilité de cette organisation mondiale qui est constituée de deux organes forts, d'une part le Conseil de sécurité et d'autre part le secrétariat général. Le secrétariat général, et je peux vous témoigner parce que j'étais un proche de Boutros Ghali, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, qui avait des pressions de la part des Américains et qu'il avait d'ailleurs sorti cette fameuse boutade. Les Américains voulaient de moi un secrétaire et je me suis érigé en général. Donc aujourd'hui, depuis la fin du mandat de Boutros Ghali, cette organisation mondiale est totalement dominée par les Américains. D'autre part, le Conseil de sécurité est bloqué dans toutes ses résolutions par l'exercice de droit de veto par les États-Unis. C'est ce qui montre malheureusement que le droit international public est bafoué, surtout quand on voit que les États-Unis peuvent également éviter des sanctions unilatérales, extraterritoriales, et qui sont établies par le Congrès, par le Parlement américain et qui s'impose au reste du monde, à tous les États et toutes les entités qui ne sont pas soumis à son dictat.
Merci Maître Atem pour donc cet éclaircissement. Monsieur Bernard Cornu, je vous ai vu donc hocher la tête quand Maître Atem a indiqué le fait que les États-Unis étaient bloqués dans leur situation d'être un allié ou en tout cas un sponsor très important de l'entité sioniste. Alors, est-ce que vous voulez développer par rapport à ce blocage? Est-ce que vous pensez vraiment que les États-Unis voudraient faire marche arrière, mais ne le peuvent pas?
Disons, ils ne veulent pas. Et en fait, avec un président très âgé, très faible, qui se trompe souvent de nom de personne, de nom de pays, plusieurs fois on a pu le voir en direct, il est faible. Donc en fait, la politique est menée par ses conseillers en dessous, ses conseillers à la sécurité nationale, le secrétaire d'État à la politique étrangère, et évidemment par les chambres des représentants et la chambre des sénateurs qui agissent pour orienter la politique. Et on est dans une année d'élection, donc le président n'est pas sûr d'être là après les élections qui auront lieu à la fin de l'année. Et pour commencer un nouveau pouvoir, avoir un nouveau gouvernement en janvier prochain.
Excusez-moi, monsieur Cornu, je vous interromps juste deux secondes. Monsieur Attal, est-ce que vous pouvez baisser un petit peu le son de votre ordinateur? Parce qu'on entend en fait le discours de monsieur Bernard Cornu dans votre micro. Donc baissez un petit peu le son de l'ordinateur. Monsieur Maître Atem.
Ah, pardon.
Oui, il n'y a pas de souci. Monsieur Cornu, continuez, excusez-moi.
Oui, donc en fait, je pense que un président fort aurait pu avoir une position, s'opposer au lobby pro-israélien, au lobby des fabricants d'armes, au lobby dans les services secrets qui sont très souvent favorables au gouvernement israélien pour des raisons historiques, pour des raisons d'implication mutuelle dans les années, à partir des années 52-53, au moment de la guerre de Corée. Il y a eu des liens très très forts entre le Mossad et la CIA, puisque c'est le Mossad qui a fait le renseignement pour le compte de la CIA, pour tout le Moyen-Orient, sachant qu'il avait des gens venus de tous les pays arabes et qui pouvaient bien connaître la situation locale, les langues et tout ça. Donc il y a cette implication. Et le pouvoir actuel américain, le président n'est pas capable, à mon avis, de résister à ces pressions, à ces orientations anciennes du pouvoir américain en faveur d'Israël, pour un contrôle de l'ensemble du Moyen-Orient et notamment du pétrole et du gaz, puisque cette région est très riche en pétrole et les Américains étaient organisés avec les Saoudiens, le royaume saoudien, à un moment où ils n'avaient pas beaucoup d'influence dans le monde et de capacité humaine pour gérer lui-même ses affaires. Et maintenant, ça a un peu changé, puisque maintenant, on a quelques pays pétroliers qui sont beaucoup plus autonomes au niveau de politique, mais ils sont encore pris dans leur tradition ancienne de vouloir composer avec l'Occident, d'être proche de l'Occident, et ils ont de la peine à avoir des positions justes qui, forcément, les amèneraient à soutenir beaucoup plus fermement les positions prises par la Ligue arabe de reconnaître l'État israélien à condition qu'ils reconnaissent en même temps un État palestinien dans les frontières de 67, c'est-à-dire avec la Cisjordanie, Jérusalem-Est et Gaza comme territoire.
Merci, monsieur Cornu. Merci, monsieur Cornu. Maître Elie Atem, alors, pour reprendre les propos tenus par monsieur Cornu, également des propos que vous avez tenus auparavant ici avec nous dans les studios, vous aviez indiqué que vous aviez rencontré monsieur Lavrov et que vous aviez proposé le fait de rédiger un nouveau droit international par le biais de l'influence des BRICS et que monsieur Lavrov aurait répondu qu'il fallait faire avec le droit international actuel qui existe déjà. Donc, est-ce qu'il se pourrait qu'avec cette crise de Gaza, cette crise palestinienne qui arrive à son summum, je pense que là, on arrive vraiment à un point de non-retour sur la situation palestinienne, est-ce qu'on pourrait, dans ce cas-là, voir réviser donc ce veto fort ? Parce que, comme le dit M. Cornu avec ses propres propos, les pays, en matière d'influence de droit international, ne sont plus, après la Seconde Guerre mondiale, on n'en est plus aux mêmes natures de force. Les pays comme l'Iran ou l'Arabie Saoudite ou l'Venezuela essaient de passer par la Cour de justice internationale parce qu'il y a infraction de leurs droits au niveau international. Donc ils savent le droit international, ils savent également essayer de se protéger. Donc on n'en est plus aux pays après la Seconde Guerre mondiale. Donc est-ce qu'on pourrait donc forcément arrêter ce veto, cette force d'un veto avec de représentant un seul pays?
Oui, en effet, alors je me permets peut-être de rectifier, je ne disais pas qu'il faut légiférer de nouveau le droit international public, parce que les règles du droit international public existent, même depuis, je dirais, la nuit des temps. C'est un droit qui s'est développé avec les siècles et nous sommes arrivés quand même à des règles assez importantes, que ça soit des règles, ce qu'on appelle des jusqu'au-jeunes, c'est-à-dire qui sont au-dessus de toutes les différents traités, même internationaux, avec une certaine, je dirais, hiérarchie respectée. Mais le problème qui se pose, en fait, c'est l'exécution. Comment faire exécuter, en fait, des décisions judiciaires internationales, d'une part. D'autre part, comment appliquer le droit international qui a été bafoué, en particulier depuis la chute de l'Union soviétique depuis 1990 et pour les raisons que j'ai évoquées concernant l'ancien secrétaire général des Nations Unies avec lequel j'avais travaillé sur la question de modification de la structure et du fonctionnement de l'organisation mondiale qui est sclérosée justement avec l'usage de ce droit de veto. Et ce que j'avais proposé à M. Lavrov avant de créer le MIR, c'est-à-dire le Mouvement International des Russophiles, de faire créer une nouvelle organisation mondiale pour pallier les Nations Unies, tout d'abord sous l'égide de Moscou, la participation de l'Iran, de la Chine, du Pakistan, du continent africain, l'Amérique du Sud, des pays l'Europe de l'Est, et puis même le Moyen-Orient, tous les pays en fait de l'Asie, en fait du continent asiatique. Et la réponse de M. Lavrov, et je vous parle de ça il y a un an, parce que les choses ont changé. Et donc c'est très difficile et très compliqué compte tenu quand même de l'implication donc de la Russie dans la guerre en Ukraine, d'une part, et puis d'autre part, c'est un peu difficile au moment actuel de créer une autre organisation parallèle aux Nations Unies qui a mis quand même beaucoup de temps pour s'établir. C'est la raison pour laquelle sa stratégie était de l'intérieur des Nations Unies, essayer de faire rétablir le droit international public avec une certaine majorité et procéder à une modification de la structure de cette organisation. Aujourd'hui, cela se révèle de plus en plus nécessaire, surtout avec cet usage de droit de veto. Et pourquoi ce droit de veto est-il réservé pour ces cinq puissances ? Pourquoi, par exemple, la France et non pas l'Allemagne ? Pourquoi la Grande-Bretagne et non pas peut-être l'Australie ou un autre État. Et puis j'en passe. Donc il faut quand même que cette organisation puisse être fonctionnelle pour arriver, pour exécuter son objectif qui est celui de la préservation de la paix et de la sécurité internationale. Et comme je vous l'ai dit, c'est qu'il y a eu une évolution en la position également de M. Lavrov que j'ai revu il y a quelques jours à Moscou, et nous avons reparlé de cet objectif, et effectivement, il ne sera pas inintéressant de créer un certain équilibre pour pallier ce déséquilibre mondial par l'intermédiaire des BRICS et la création d'une entité qui va pouvoir, par l'intermédiaire donc des BRICS et surtout avec la création d'un SWIFT qui sera parallèle à celui des États-Unis, de sortir de cette hégémonie américaine qui s'impose d'une manière financière et économique en édictant des sanctions et en sclérosant la société internationale et en créant une sorte de terrorisme psychologique, économique et financier, même matériel sur le terrain, et pouvoir faire éditer en fait des contre-sanctions internationales. Et cela va être très bientôt, je l'espère, révélé et déclaré publiquement en juin prochain, parallèlement à la réunion des BRICS, et c'est un moyen, comme les autres également, de pouvoir mener une pression sur cet monde hégémonique totalitaire qui est en fait téléguidé et dirigé par les États-Unis et bien sûr par leur allié israélien.
Merci, Maître Hatem. Alors, Monsieur Bernard Cornu, ça sera peut-être certainement, éventuellement, les derniers mots de ce débat. Vous aviez parlé du fait que les États-Unis étaient représentés par un retraité, tout simplement quelqu'un qui n'était plus capable, qui n'était pas capable même dès le début de diriger les États-Unis. Mais après ce qui s'est passé hier à Moscou, si vous avez suivi les tweets sur X, où les gens reprenaient le fait que ISIS, Daesh ou n'importe quelle action terroriste, dite terroriste d'un point de vue des États-Unis ou des Européens n'existait pas, que c'était donc des éléments créés par les États-Unis, des éléments créés par le Mossad. Donc on en est là où les États-Unis sont critiqués, où les États-Unis sont traités d'impérialistes, où les États-Unis sont traités d'être les vrais fléaux des différentes guerres de ces 20, voire 30, voire 50, 75 ans de ces dernières années. Tout dépend d'à partir de où on prend l'histoire, bien sûr, mais on va dire que c'est de pire en pire, parce que le Moyen-Orient, là où on se trouve, l'Iran a dû subir ces actes terroristes, a dû subir des voisins qui se sont retrouvés sous sanctions alors que ce n'était pas eux qui avaient créé ces groupes terroristes qui ont attaqué même l'Europe. Alors est-ce qu'on n'est pas en train d'exagérer en mettant tout sur Biden? Biden n'est plutôt finalement pas un pantin, et c'est derrière lui qu'en fait ils ont créé tout un tas, et l'histoire de Gaza, l'histoire de la Palestine est finalement ce qui permet aux gens de s'unifier, dire oui, bon, il faut dire ce qui est la vérité, c'est que ce sont ni les pays arabes, ni les pays africains, ni les pays d'Amérique du Sud qui provoquent la guerre, mais plutôt l'influence américaine sur les territoires de ces différents continents. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Cornu?
Oui, tout à fait, cette influence des Américains pour financer, organiser et faire financer en fait le terrorisme a commencé au moins très clairement, c'est reconnu par les historiens, à l'été 1979, à un moment où en Afghanistan, où les Américains ont convenu avec le pouvoir saoudien de l'époque d'amener des djihadistes, enfin des mercenaires payés par l'Arabie saoudite mais aidés au niveau des moyens de communication par les Américains, par les services secrets américains, pour s'opposer en Afghanistan à un gouvernement qui avait des sympathies pro-communistes. Et ceci a généré des attentats, des affrontements dans tout l'été et l'automne 1979. Et ceci a provoqué l'entrée des troupes russes qui ont voulu calmer la situation, mais qui se sont enferrés dans cette situation, dans ce pays de haute montagne. Et donc, ceci a conduit à un affaiblissement de l'URSS dès ces années-là, après quelques années de guerre et d'escarmouches en Afghanistan. Mais l'origine est bien la volonté, à l'époque, de M. Brzezinski, qui était un Américain d'origine polonaise, qui était secrétaire d'État adjoint pour la sécurité, je crois, à l'époque, et qui avait eu ce plan qu'il avait proposé à M. Carter, qui ne pouvait pas bien contrôler tout ce qui allait se passer dans cette aventure en Afghanistan. Et donc, c'est ça à ce moment-là. Et d'autre part, c'est vrai que les Saoudiens étant très riches ont pu financer pendant très longtemps dans leurs universités la formation d'imams ou de savants religieux, mais en leur enseignant des savoirs très traditionnels, très conservateurs, et en plus en envoyant ces gens-là en presse, en leur finançant leur envoi dans des pays, en leur assurant leur salaire, en assurant toute leur documentation, et ceci a beaucoup perturbé en fait l'image ou la réalité de l'islam contemporain dans beaucoup de pays, parce que c'était encore une fois l'influence de l'argent au service d'une sorte de manipulation des esprits dans le monde musulman. Ceci a fait beaucoup de dégâts, et ceci est bien connu par les historiens, mais c'est vrai qu'on ne le dénonce pas assez. Et je ne dirais pas que le président Biden est un pantin, mais je dis qu'il était très faible et qu'il a de la peine à résister à collecter toutes les informations et à résister aux pressions qui s'exercent en faveur du pouvoir israélien et de la colonisation au Moyen-Orient.
Merci, Monsieur Bernard Cornu. Finalement, nous avons encore le temps peut-être d'une dernière question. Monsieur Maître, qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que vous pensez qu'on en arrive aujourd'hui dans notre histoire au fait que ce Conseil, finalement, cette ONU, puisse changer certaines données, que certains pays soient moins représentés, que d'autres puissent passer en avant, ou tout simplement que tous les pays soient sur un même terrain d'égalité en matière de vote, de voix surtout ?
Oui, alors, et surtout, si vous voulez, le problème essentiel, c'est de mettre un terme à cette formule d'un droit de veto au sein du Conseil de sécurité. Pourquoi ? Pour la raison très simple, il faut que les 15 membres du Conseil qui soient à égalité, parce que vous savez, il y a une participation tournante à ce Conseil, donc il y a 10 membres qui changent. Et qui sont en fait des membres de l'Organisation mondiale en général, c'est-à-dire également membres de l'Assemblée générale, mais qui changent. Et nous avons 5 membres qui sont toujours permanents et qui sont ceux que j'ai cités. Il faut donc donner la possibilité à l'ensemble des pays de la planète de faire partie donc de ce Conseil de sécurité, pas ce roulement qui existe, mais en mettant un terme à l'existence de membres permanents, premièrement, et deuxièmement, cette faculté d'avoir un droit de veto, c'est-à-dire immobiliser l'action du Conseil de sécurité quand il s'agit de questions très importantes comme le conflit actuel donc en Palestine, et puis pour faire arrêter ce génocide que subit le peuple palestinien, et puis mettre un terme également à cette cette persistance de la part de certains pays hégémoniques qui soutiennent pour leurs propres intérêts des criminels de guerre.
Merci maître.
Je voudrais rappeler que dans le règlement des Nations Unies, les résolutions sous chapitre 7 permettent d'être appliquées par la force. Et donc si on veut régler le problème entre Israël et les Palestiniens, il faudrait trouver les formulations d'une résolution sous chapitre 7 de la Charte des Nations Unies pour qu'elle puisse être appliquée sous la menace de la force, pas forcément sous la force, mais déjà sous la menace de la force.
Merci Monsieur Bernard Cornu pour cette intervention qui sera finalement les mots de notre conclusion. Un débat riche. Merci messieurs. Merci pour votre participation. Merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. C'est ici que nous on se dit au revoir. Notre émission débat est finie. Je vous remercie de nous avoir écoutés, de nous suivre. N'hésitez pas à voir ou revoir nos autres programmes débat ou nos autres émissions sur notre site internet ou encore sur nos réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt pour un autre sujet du débat ici sur les plateaux de Presse TV. Au revoir.
Voyage dans l'univers mystique de Molavo. L'âne meurtri. Il y avait un porteur d'eau qui possédait un âne d'un caractère acariâtre et l'art de l'existence. Les fardeaux avaient meurtri son dos et cet inconsolable n'espérait plus que la mort. Le manque de nourriture le faisait cruellement souffrir et il rêvait continuellement d'un picotin de paille. De plus, l'aiguillon avait laissé sur ses flancs des plaies douloureuses. Or, le palefrenier en chef du palais du sultan connaissait le propriétaire de ces tonnes. Un jour, il le croisa sur son chemin. Il le salua et voyant l'état de son âne, il fut pris de pitié. « Pourquoi cet âne est-il aussi décharné ? » demanda-t-il. « Ma pauvreté en est la cause, » répondit l'homme. « Moi aussi je suis dans le besoin et mon âne doit se passer de toute nourriture. » Le palefrenier lui dit « Confie-le-moi pour quelques jours afin qu'il profite un peu des avantages de l'écurie du sultan. » L'homme lui confia donc son âne et celui-ci fut installé dans les écuries du palais. Là, il vit des chevaux arabes, fringants et luisants, pourvus d'une bonne litière et d'une nourriture abondante. Le sol était propre et net. Jamais rien ne venait à manquer. En voyant qu'à tout moment ses chevaux étaient étriés, l'âne leva les yeux au ciel et dit « Ô mon Dieu, bien que je ne sois qu'un âne, je suis cependant l'une de tes créatures. Pourquoi alors dois-je endurer cette misère et tous ces tourments? Je passe mes nuits à appeler la mort de mes vœux à cause de mon dos perclus et de mon ventre vide. Par comparaison, le sort de ces cheveux me paraît particulièrement enviable. Est-ce que par hasard toutes ces épreuves me seraient réservées à moi seul? Or, un jour, la guerre éclata. Les cheveux furent scellés et partirent au combat. Quand ils revinrent à l'écurie, ils étaient tout ensanglantés, blessés de tous côtés d'innombrables coups de lance ou de flèche. On les fit rentrer dans l'écurie et ils furent entravés afin que le maréchal Ferrand, muni de sa lancette, puisse officier. Et ce dernier commença à entailler les blessures afin de retirer les pointes de flèche. En voyant tout cela, l'âne se dit « Oh mon Dieu, en fin de compte, je suis satisfait de mon état de pauvreté. Cette abondance devient bien vite amère. Fort peu pour moi. Qui cherche la santé n'a pas de penchant pour le monde d'ici-bas. Ma santé à moi, c'est la pauvreté. » Chien de 7 ans. Quand un Turkmène possède un chien de berger, celui-ci s'installe au seuil de sa tente. Les enfants de la famille lui tirent la queue et le taquinent, mais lui s'en moque. Mais si par malheur un étranger vient à passer, il se change soudain en un lion redoutable. Il est comme la rose pour ses amis et comme l'épine pour ses ennemis. C'est le Turkmène qui lui donne sa pâtée et c'est pour cette raison que le chien lui est fidèle et le garde. Ce chien de 7 ans, lui aussi, a été créé par Dieu, et il y a une sagesse cachée dans ceci. La pâtée qu'il reçoit, c'est la sueur du peuple qui court après les biens de ce monde. 7 ans, tout comme un chien, sacrifierait sa vie sur le seuil de la maison de son maître. Au chien de 7 ans, chaque fois que le peuple fait un pas, éprouve-le, car tous, bons ou mauvais, se dirigent vers le seuil. Pourquoi dit-on « Je me réfugie en Dieu » si ce n'est parce que le chien vient nous attaquer? Ô Turkmène, rappelle ton chien afin de me libérer le chemin. Sois généreux avec moi. Si le propriétaire ne peut se faire obéir de son chien, tout appel à sa générosité est sans espoir. S'il est incapable de maîtriser son chien dans sa propre tente, malheur à lui et à ses visiteurs, car le chien les effraiera tous deux. Mais grâce à Dieu, quand le Turkmène pousse un cri, même les lions rendent leur sang tant ils ont peur. Ô toi qui prétends être le lion de Dieu, comment oses-tu dire que tu chasses alors que tu es impuissant devant un chien depuis des années? Il n'est que trop évident que dans cette affaire, c'est toi qui sers de gibier. Radis. Un jour, un voleur dit à un des soldats du sultan : tout ce que j'ai fait a été voulu par Dieu. Il en va de même pour moi, répliqua le soldat. Si quelqu'un vole des radis à un étalage et tente de se disculper en disant : c'est Dieu qui l'a voulu, donne-lui un coup de poing sur la tête et remets les radis en place, car ceci aussi, c'est la volonté de Dieu. Ô idiot, tu sais bien qu'aucun épicier n'acceptera ce prétexte. Alors, comment peux-tu compter sur lui? Ô ignorant, en persistant dans cette erreur, tu ruines ton sang et tes biens. Si un tel argument pouvait servir, alors n'importe qui pourrait t'arracher la moustache avec cette excuse. Moi aussi, je suis plein de désirs, mais la crainte de Dieu lie mes mains et mes bras. Quand il s'agit de satisfaire ton ego, tu as de la volonté qu'on va à personne. Et pour le reste, tu invoques la volonté de Dieu. L'arbre fruitier. Un homme était monté sur un arbre fruitier et en secouait les branches pour faire tomber les fruits. Le propriétaire arriva soudain et l'apostropha. N'as-tu pas honte devant Dieu?
Qu'a-t-il de honteux? Répliqua l'homme.
Si un serviteur de Dieu mange le fruit des faveurs de Dieu dans le jardin de Dieu, en quoi est-ce répréhensible? Le propriétaire dit alors à ses serviteurs : amenez une corde afin qu'il reçoive la réponse qu'il mérite. Il le fit attacher à un arbre, puis le frappa sur les cuisses et le dos. L'homme se mit à crier : tu devrais avoir honte devant Dieu de maltraiter un innocent comme moi. Mais le propriétaire répondit : si un serviteur de Dieu frappe avec le bâton de Dieu un autre serviteur de Dieu, quel mal y vois-tu? Le bâton lui appartient. Tes cuisses et ton dos lui appartiennent. Quant à moi, je ne suis qu'un outil dans ses mains. Alors le voleur: je me repens. Tu dis vrai, la volonté existe en moi.
acquitterán la voz de la República Islámica de Irán.